Erckmann Chatrian. Conte fantastique. L'esquisse mystérieuse. En face de la chapelle Saint-Sébalt, à Nuremberg, au coin de la rue des Trabants, s'élève une petite auberge, étroite et haute, le pignon dentelé, les vitres poudreuses, le toit surmonté d'une vierge en plâtre. C'est là que j'ai passé les plus tristes jours de ma vie. J'étais allé à Nuremberg pour étudier les vieux maîtres allemands, mais faute d'espèces sonnantes, il me fallut faire des portraits. Et quels portraits ! De grosses commères, leurs chats sur les genoux, des échevins en perruque, des bourgmestres en tricorne, le tout enluminé d'ocre et de vermillon à plein godet. Des portraits, je descendis aux croquis, et des croquis aux silhouettes. Rien de pitoyable comme d'avoir constamment sur le dos un maître d'hôtel, les lèvres pincées, la voix criarde, l'air impudent qui vient vous dire chaque jour « Ah ça, me paierez-vous bientôt, monsieur? Savez-vous à combien se monte votre note? Non, cela ne vous inquiète pas. Monsieur mange, boit et dort tranquillement. Au petit oiseau, le seigneur donne la pâture. La note de monsieur se monte à 200 florins et 10 kreutzer. Ce n'est pas la peine qu'on en parle. » Ceux qui n'ont pas entendu chanter cette gamme ne peuvent s'en faire une idée. L'amour de l'art, l'imagination, l'enthousiasme sacré du beau se dessèchent au souffle d'un pareil drôle. Vous devenez gauche, timide, toute votre énergie se perd, aussi bien que le sentiment de votre dignité personnelle, et vous saluez de loin, respectueusement, monsieur le bourgmestre Schneegans. Une nuit, n'ayant pas le sou comme d'habitude, et menacé de la prison par ce digne maître Rapp, je résolus de lui faire banqueroute en me coupant la gorge. Dans cette agréable pensée, assis sur mon grabat en face de la fenêtre, je me livrais à 1000 réflexions philosophiques plus ou moins réjouissantes. « Qu'est-ce que l'homme ? » me disais-je. « Un animal omnivore. Ses mâchoires, pourvues de canines, d'incisives et de molaires, le prouvent suffisamment. » Les canines sont faites pour déchirer les viandes, les incisives pour entamer les fruits et les molaires pour mastiquer, broyer et triturer les substances animales et végétales agréables au goût et à l'odorat. Mais quand il n'y a rien à mastiquer, cet être est un véritable non-sens dans la nature, une superfétation, une cinquième roue à un carrosse. Telles étaient mes réflexions. Je n'osais ouvrir mon rasoir, de peur que la force invincible de ma logique ne m'inspirât le courage d'en finir. Après avoir bien argumenté de la sorte, je soufflai ma chandelle, renvoyant la suite au lendemain. Cet abominable Rapp m'avait complètement abruti. Je ne voyais plus en fait d'art que des silhouettes, et mon seul désir était d'avoir de l'argent pour me débarrasser de son odieuse présence. Mais cette nuit-là, il se fit une singulière révolution dans mon esprit. Je m'éveillai vers 1 heure, je rallumai ma lampe, et m'enveloppant de ma souquenille grise, je jetai sur le papier une rapide esquisse dans le genre hollandais, quelque chose d'étrange, de bizarre, et qui n'avait aucun rapport avec mes conceptions habituelles. Figurez-vous une cour sombre, encaissée entre de hautes murailles décrépites. Ces murailles sont garnies de crocs à 7 ou 8 pieds du sol. On devine, au premier aspect, une boucherie. À gauche s'étend un treillage en latte. Vous apercevez à travers un bœuf écartelé, suspendu à la voûte par d'énormes poulies. De larges mares de sang courent sur les dalles et vont se réunir dans une rigole pleine de débris informes. La lumière vient de haut, entre les cheminées, dont les girouettes se découpent dans un angle du ciel grand comme la main, et les toits des maisons voisines échafaudent vigoureusement leurs ombres d'étage en étage. Au fond de ce réduit se trouve un hangar. Sous le hangar, un bûcher. Sur le bûcher, des échelles, quelques bottes de paille, des paquets de cordes, une cage à poules et une vieille cabane à lapins hors de service. Comment ces détails hétéroclites s'offraient-ils à mon imagination? Je l'ignore. Je n'avais nulle réminiscence analogue. Et pourtant, chaque coup de crayon était un fait d'observation fantastique à force d'être vrai. Rien n'y manquait. Mais à droite, un coin de l'esquisse restait blanc. Je ne savais qui mettre. Là, quelque chose s'agitait, se mouvait. Tout à coup, j'y vis un pied renversé, détaché du sol. Malgré cette position improbable, je suivis l'inspiration sans me rendre compte de ma propre pensée. Ce pied aboutit à une jambe. Sur la jambe, étendue avec effort, flotta bientôt un pan de robe. Bref, une vieille femme, hâve, défaite, échevelée, apparut successivement, renversée au bord d'un puits et luttant contre un poing qui lui serra la gorge. C'était une scène de meurtre que je dessinais. Le crayon me tomba de la main. Cette femme, dans l'attitude la plus hardie, les reins pliés sur la margelle du puits, la face contractée par la terreur, les deux mains crispées au bras du meurtrier, me faisait peur. Je n'osais la regarder. Mais l'homme, lui, le personnage de ce bras, je ne le voyais pas. Il me fut impossible de le terminer. « Je suis fatigué, me dis-je, le front baigné de sueur. Il ne me reste que cette figure à faire. Je terminerai demain. Ce sera facile. » Et je me recouchai, tout effrayé de ma vision. 5 minutes après, je dormais profondément. Le lendemain, j'étais debout au petit jour. Je venais de m'habiller et je m'apprêtais à reprendre l'œuvre interrompue quand 2 petits coups retentirent à la porte. « Entrez !» La porte s'ouvrit. Un homme déjà vieux, grand, maigre, vêtu de noir, apparut sur le seuil. La physionomie de cet homme, ses yeux rapprochés, son grand nez en bec d'aigle surmonté d'un front large, osseux, avait quelque chose de sévère. Il me salua gravement. « Monsieur Christian Vénus, le peintre ?» dit-il. « C'est moi, monsieur. » Il s'inclina de nouveau, ajoutant « Le baron Frédéric van Sprengdahl. » L'apparition dans mon pauvre taudis du riche amateur van Sprengdahl, juge au tribunal criminel, m'impressionna vivement. Je ne pus m'empêcher de jeter un coup d'œil dérobé sur mes vieux meubles vermoulus, sur mes tapisseries humides et sur mon plancher poudreux. Je me sentais humilié d'un tel délabrement, mais van Sprengdahl ne parut pas faire attention à ces détails et, s'asseyant devant ma petite table, « Maître Vénus, reprit-il, je viens... » Mais au même instant, ses yeux s'arrêtèrent sur l'esquisse inachevée. Il ne termina point sa phrase. Je m'étais assis au bord du grabat, et l'attention subite que ce personnage accordait à l'une de mes productions faisait battre mon cœur d'une appréhension indéfinissable. Au bout d'une minute, van Sprengdahl, levant la tête, « Êtes-vous l'auteur de cette esquisse ?» me dit-il, le regard attentif. « Oui, monsieur. » « Quel en est le prix ?»« Je ne vends pas mes esquisses, c'est le projet d'un tableau. »« Ah !» fit-il, en levant le papier du bout de ses longs doigts jaunes. Il sortit une lentille de son gilet et se mit à étudier le dessin en silence. Le soleil arrivait alors obliquement dans la mansarde. Van Sprengdahl ne murmurait pas un mot. Son grand nez se recourbait en griffes, ses larges sourcils se contractaient et son menton, se relevant en galoche, creusait 1000 petites rides dans ses longues joues maigres. Le silence était si profond que j'entendais distinctement le bourdonnement plaintif d'une mouche prise dans une toile d'araignée. « Et les dimensions de ce tableau, maître Vénus ? » fit-il enfin, sans me regarder. « 3 pieds sur 4. » « Le prix ?»« 50 ducats. » Van Sprengdahl déposa le dessin sur la table et tira de sa poche une longue bourse de soie verte allongée en forme de poire. Il en fit glisser les anneaux. 50 ducats, dit-il. Les voilà. J'eus un éblouissement. Le baron s'était levé, il me salua, et j'entendis sa grande canne à pommes d'ivoire résonner sur chaque marche jusqu'au bas de l'escalier. Alors, revenu de ma stupeur, je me rappelai tout à coup que je ne l'avais pas remercié, et je descendis les 5 étages comme la foudre. Mais arrivé sur le seuil, j'eus beau regarder à droite et à gauche, la rue était déserte. « Tiens, me dis-je, c'est drôle. » Et je remontai l'escalier tout haletant. La manière surprenante dont Van Sprengdahl venait de m'apparaître me jetait dans une profonde extase. « Hier, me disais-je en contemplant la pile de ducats étincelante au soleil, hier, je formais le dessein coupable de me couper la gorge pour quelques misérables florins. Et voilà qu'aujourd'hui, la fortune me tombe des nues. Décidément, j'ai bien fait de ne pas ouvrir mon rasoir, et si jamais la tentation d'en finir me reprend, j'aurai soin de remettre la chose au lendemain. » Après ces réflexions judicieuses, je m'assis pour terminer l'esquisse. 4 coups de crayon, et c'était une affaire faite. Mais ici m'attendait une déception incompréhensible. Ces 4 coups de crayon, il me fut impossible de les donner. J'avais perdu le fil de mon inspiration, le personnage mystérieux ne se dégageait pas des limbes de mon cerveau. J'avais beau l'évoquer, l'ébaucher, le reprendre, il ne s'accordait pas plus avec l'ensemble qu'une figure de Raphaël dans une tabagie de Teniers. J'en suais à grosses gouttes. Au plus beau moment, Rapp ouvrit la porte sans frapper, suivant sa louable habitude. Ses yeux se fixèrent sur ma pile de ducats, et d'une voix glapissante, il s'écria « Hé hé, je vous y prends. Direz-vous encore, monsieur le peintre, que l'argent vous manque ?» Et ses doigts crochus s'avancèrent avec ce tremblement nerveux que la vue de l'or produit toujours chez les avares. Je restai stupéfait quelques secondes. Le souvenir de toutes les avanies que m'avait infligées cet individu, son regard cupide, son sourire impudent, tout m'exaspérait. D'un seul bond, je le saisis et le repoussant des deux mains hors de la chambre, je lui aplatis le nez avec la porte. Cela se fit avec le cric-crac et la rapidité d'une tabatière à surprise. Mais dehors, le vieil usurier poussa des cris d'aigle. « Mon argent, voleur, mon argent !» Les locataires sortaient de chez eux et demandaient « Qu'y a-t-il donc? Qu'est-ce qui se passe ?» Je rouvris brusquement la porte et dépêchant dans l'échine de Maître Rapp un coup de pied qui le fit rouler plus de 20 marches, « Voilà ce qui se passe » m'écriai-je, hors de moi. Puis je refermai la porte à double tour, tandis que les éclats de rire des voisins saluaient Maître Rapp au passage. J'étais content de moi. Je me frottai les mains. Cette aventure m'avait remis en verve. Je repris l'ouvrage et j'allais terminer l'esquisse lorsqu'un bruit inusité frappa mes oreilles. Des crosses de fusils se posaient sur le pavé de la rue. Je regardai par ma fenêtre et je vis 3 gendarmes, la carabine au pied, le chapeau à claque de travers, en faction à la porte d'entrée. « Ce scélérat de Rapp se serait-il cassé quelque chose ?» me dis-je avec effroi. Et voyez l'étrange bizarrerie de l'esprit humain. Moi, qui voulais la veille me couper la gorge, je frémis jusqu'à la moelle des os, en pensant qu'on pourrait bien me pendre si Rapp était mort. L'escalier s'emplissait de rumeurs confuses. C'était une marée montante de pas sourds, de cliquetis d'armes, de paroles brèves. Tout à coup, on essaya d'ouvrir ma porte. Elle était fermée. Alors, ce fut une clameur générale. « Au nom de la loi, ouvrez !» Je me levai, tremblant, les jambes vacillantes. « Ouvrez !» reprit la même voix. J'eus l'idée de me sauver par les toits, mais à peine avais-je passé la tête par la petite fenêtre en tabatière que je reculai, saisi de vertige. J'avais vu dans un éclair toutes les fenêtres au-dessous, avec leurs vitres miroitantes, leurs pots de fleurs, leurs volières, leurs grilles. Et plus bas, le balcon. Plus bas, le réverbère. Plus bas, l'enseigne du tonnelet rouge, garnie de crampons. Puis enfin, les trois baïonnettes scintillantes qui n'attendaient que ma chute pour m'embrocher de la plante des pieds jusqu'à la nuque. Sur le toit de la maison d'en face, un gros chat rouge, à l'affût derrière une cheminée, guettait une bande de moineaux piaillant et bataillant dans la gouttière. On ne saurait s'imaginer à quelle netteté, à quelle puissance et à quelle rapidité de perfection l'œil de l'homme peut atteindre lorsqu'il est stimulé par la peur. À la troisième sommation, « Ouvrez ou l'on enfonce !» Voyant que la fuite était impossible, je m'approchai de la porte en chancelant et je fis jouer la serrure. Deux poings s'abattirent aussitôt sur mon collet. Un petit homme trapu qui sentait le vin me dit « Je vous arrête !» Il portait une redingote vert-bouteille boutonnée jusqu'au menton, un chapeau en tuyau de poils. Il avait de gros favoris bruns, des bagues à tous les doigts et s'appelait Passauf. C'était le chef de la police. Cinq têtes de bulldog, à petite casquette plate, le nez en canon de pistolet, la mâchoire inférieure débordant en crocs, m'observaient du dehors. « Que voulez-vous » demandai-je à Passauf. « Descendez » s'écria-t-il brusquement, en faisant signe à l'un de ses hommes de m'empoigner. Celui-ci m'entraîna, plus mort que vif, pendant que les autres bouleversaient ma chambre de fond en comble. Je descendis, soutenu sous les bras, comme un phtisique à sa troisième période, les cheveux épars sur la figure et trébuchant à chaque pas. On me jeta dans un fiacre, entre deux vigoureux gaillards qui me laissèrent voir charitablement le bout de leurs deux casse-têtes retenus au poignet par un cordon de cuir, puis la voiture partit. J'entendais rouler derrière nous les pas de tous les gamins de la ville. « Qu'ai-je donc fait ? » demandai-je à l'un de mes gardiens. Il regarda l'autre avec un sourire bizarre et dit « Hans, il demande ce qu'il a fait. » Ce sourire me glaça le sang. Bientôt, une ombre profonde enveloppa la voiture. Les pas des chevaux retentirent sous une voûte. Nous entrions à la Raspelhaus. C'est là qu'on peut dire « Dans cet antre, je vois fort bien comme l'on entre et ne vois point comme on en sort. » Tout n'est pas rose en ce monde. Des griffes de râpe, je tombais dans un cachot, d'où bien peu de pauvres diables ont eu la chance de se tirer. De grandes cours obscures, des fenêtres alignées comme à l'hôpital et garnies de hottes, pas une touffe de verdure, pas un feston de lierre, pas même une girouette en perspective, voilà mon nouveau logement. Il y avait de quoi s'arracher les cheveux à pleine poignée. Les agents de police, accompagnés du geôlier, m'introduisirent provisoirement dans un violon. Le geôlier, autant que je m'en souviens, s'appelait Casper Schlüssel. Avec son bonnet de laine grise, son bout de pipe entre les dents et son trousseau de clés à la ceinture, il me produisit l'effet du dieu hibou des Caraïbes. Il en avait les grands yeux ronds dorés qui voient dans la nuit, le nez en virgule et le cou perdu dans les épaules. Schlüssel m'enferma tranquillement, comme on serre des chaussettes dans une armoire, en rêvant à autre chose. Quant à moi, les mains croisées sur le dos, la tête inclinée, je restais plus de 10 minutes à la même place. Au bout de ce temps, je fis la réflexion suivante. Rapp, en tombant, s'était crié « On m'assassine !» Mais il n'a pas dit qui. Je dirais que c'est mon voisin, le vieux marchand de lunettes. Il sera pendu à ma place. Cette idée me soulagea le cœur et j'exhalai un long soupir. Puis je regardai ma prison. Elle venait d'être blanchie à neuf et ses murailles n'offraient encore aucun dessin, sauf dans un coin, un gibet grossièrement ébauché par mon prédécesseur. Le jour venait d'un œil de bœuf situé à 9 ou 10 pieds de hauteur. L'ameublement se composait d'une botte de paille et d'un baquet. Je m'assis sur la paille, les mains autour des genoux, dans un abattement incroyable. C'est à peine si j'y voyais clair. Mais songeant tout à coup que Rapp, avant de mourir, avait pu me dénoncer, j'eus des fourmillements dans les jambes et je me relevai en toussant comme si la cravate de chanvre m'eût déjà serré la gorge. Presque au même instant, j'entendis Schlüssel traverser le corridor. Il rouvrit le violon et me dit de le suivre. Il était toujours assisté des deux casse-têtes, aussi j'emboîtai le pas résolument. Nous traversâmes de longues galeries éclairées de distance en distance par quelques fenêtres intérieures. J'aperçus, derrière une grille, le fameux Jig-Jack qui devait être exécuté le lendemain. Il portait la camisole de force et chantait d'une voix rauque « Je suis le roi de ces montagnes ». En me voyant, il cria « Hé, camarade, je te garde une place à ma droite ». Les deux agents de police et le dieu hibou se regardèrent en souriant, tandis que la chair de poule s'étendait le long de mon dos. Schlussel me poussa dans une haute salle très sombre, garnie de bancs en hémicycle. L'aspect de cette salle déserte, ses deux hautes fenêtres grillées, son Christ de vieux chêne bruni, les bras étendus, la tête douloureusement inclinée sur l'épaule, m'inspira je ne sais quelle crainte religieuse, d'accord avec ma situation actuelle. Toutes mes idées de fausses accusations disparurent, et mes lèvres s'agitèrent, murmurant une prière. Depuis longtemps, je n'avais pas prié, mais le malheur nous ramène toujours à des pensées de soumission. L'homme est si peu de choses. En face de moi, sur un siège élevé, se trouvaient assis deux personnages, tournant le dos à la lumière, ce qui laissait leur figure dans l'ombre. Cependant, je reconnus Van Sprengdahl à son profil aquilin, éclairé par un reflet oblique de la vitre. L'autre personnage était gros. Il avait les joues pleines, rebondies, les mains courtes et portait la robe de juge, ainsi que Van Sprengdahl. Au-dessous était assis le greffier Conrad. Il écrivait sur une table basse, se chatouillant le bout de l'oreille avec la barbe de sa plume. À mon arrivée, il s'arrêta pour me regarder d'un air curieux. On me fit asseoir, et Van Sprengdahl, élevant la voix, me dit « Christian Vénus, d'où tenez-vous ce dessin ?» Il me montrait l'esquisse nocturne, alors en sa possession. On me la fit passer. Après l'avoir examinée, je répondis « J'en suis l'auteur ». Il y eut un assez long silence. Le greffier Conrad écrivait ma réponse. J'entendais sa plume courir sur le papier et je pensais « Que signifie la question qu'on vient de me faire ? Cela n'a point de rapport avec le coup de pied dans l'échine de râpe. » « Vous en êtes l'auteur, » reprit Van Sprengdahl. « Quel en est le sujet ? C'est un sujet de fantaisie. » « Vous n'avez point copié ces détails quelque part ?»« Non, monsieur, je les ai tous imaginés. » « Accusez Christian, » dit le juge d'un ton sévère. « Je vous invite à réfléchir. Ne mentez pas !» Je rougis et, d'un ton exalté, je m'écriai. « J'ai dit la vérité. »« Écrivez, greffier, » fit Van Sprengdahl. La plume courut de nouveau. « Et cette femme, » poursuivit le juge, « cette femme qu'on assassine au bord d'un puits, l'avez-vous aussi imaginée ?»«
Sans doute. »«
Vous ne l'avez jamais vue ?»
Jamais.
Van Sprengdahl se leva comme indigné, puis, se rasseyant, il parut se consulter à voix basse avec son confrère. Ces deux profils noirs, se découpant sur le fond lumineux de la fenêtre, et les trois hommes, debout derrière moi, le silence de la salle, tout me faisait frémir. Que me veut-on? Qu'ai-je donc fait? Murmurai-je. Tout à coup, Van Sprengdahl dit à mes gardiens. « Vous allez reconduire le prisonnier à la voiture. Nous partons pour la Metzerstrasse. » Puis, s'adressant à moi, « Christian Vénus, s'écria-t-il, vous êtes dans une voie déplorable. Recueillez-vous et songez que si la justice des hommes est inflexible, il vous reste la miséricorde de Dieu. Vous pouvez la mériter en avouant votre crime. » Ces paroles m'abasourdirent comme un coup de marteau. Je me rejetai en arrière et les bras étendus en m'écriant « Ah, quel rêve affreux ! Et je m'évanouis. Lorsque je revins à moi, la voiture roulait lentement dans la rue. Une autre nous précédait. Les deux agents de sûreté étaient toujours là. L'un d'eux, pendant la route, offrit une prise de tabac à son confrère. Machinalement, j'étendis les doigts vers la tabatière. Il la retira vivement. Le rouge de la honte me monta au visage et je détournai la tête pour cacher mon émotion. « Si vous regardez dehors, dit l'homme à la tabatière, nous serons forcés de vous mettre les menottes. » « Que le diable t'étrangle, infernal gredin, pensai-je en moi-même. » Et comme la voiture venait de s'arrêter, l'un d'eux descendit, tandis que l'autre me retenait par le collet. Puis, voyant son camarade prêt à me recevoir, il me poussa rudement dehors. Ces précautions infinies pour s'assurer de ma personne ne m'annonçaient rien de bon, mais j'étais loin de prévoir toute la gravité de l'accusation qui pesait sur ma tête, quand une circonstance affreuse m'ouvrit enfin les yeux et me jeta dans le désespoir. On venait de me pousser dans une allée basse, à pavés rompus, inégaux. Le long du mur coulait un suintement jaunâtre, exhalant une odeur fétide. Je marchais au milieu des ténèbres, deux hommes derrière moi. Plus loin apparaissait le clair-obscur d'une cour intérieure. À mesure que j'avançais, la terreur me pénétrait de plus en plus. Ce n'était point un sentiment naturel, c'était une anxiété poignante, hors nature, comme le cauchemar. Je reculais instinctivement à chaque pas. « Allons donc !» criait l'un des agents de police en m'appuyant la main sur l'épaule. « Marchez !» Mais quelle ne fut pas mon épouvante lorsque, au bout du corridor, je vis la cour que j'avais dessinée la nuit précédente, avec ses murs garnis de crocs, ses amas de vieilles ferrailles, sa cage à poules et sa cabane à lapins. Pas une lucarne, grande ou petite, haute ou basse, pas une vitre fêlée, pas un détail n'avait été omis. Je restais foudroyé par cette étrange révélation. Près du puits se trouvaient les deux juges, Van Sprengdahl et Richter. À leurs pieds gisait la vieille femme, couchée sur le dos, ses longs cheveux gris épars, la face bleue, les yeux démesurément ouverts et la langue prise entre les dents. C'était un spectacle horrible. « Eh bien, me dit Van Sprengdahl d'un accent solennel, qu'avez-vous à dire ?» Je ne répondis pas. « Reconnaissez-vous avoir jeté cette femme, Teresa Becker, dans ce puits, après l'avoir étranglée, pour lui voler son argent ?»« Non, m'écriai-je, non, je ne connais pas cette femme, je ne l'ai jamais vue, que Dieu me soit en aide !»« Cela suffit, répliqua-t-il d'une voix sèche. » Et, sans ajouter un mot, il sortit rapidement avec son confrère. Les agents crurent alors devoir me mettre les menottes. On me reconduisit à la Rashpell House dans un état de stupidité profonde. Je ne savais plus que penser, ma conscience elle-même se troublait. Je me demandais si je n'avais pas assassiné la vieille femme. Aux yeux de mes gardiens, j'étais condamné. Je ne vous raconterai pas mes émotions de la nuit à la Rashpell House lorsque, assis sur ma botte de paille, la lucarne en face de moi et le gibet en perspective, j'entendis le watchman crier dans le silence. « Dormez, habitants de Nuremberg, le Seigneur veille. Une heure, deux heures, trois heures sonnées. » Chacun peut se faire l'idée d'une nuit pareille. On a beau dire qu'il vaut mieux être pendu innocent que coupable, pour l'âme, oui, mais pour le corps, il ne fait pas la différence. Au contraire, il regimbe, il maudit le sort, il cherche à s'échapper, sachant bien que son rôle finit avec la corde. Ajoutez qu'il se repent de n'avoir pas assez joui de la vie, d'avoir écouté l'âme qui lui prêchait l'abstinence. « Ah, si j'avais su, s'écrie-t-il, tu ne m'aurais pas conduit en laisse avec tes grands mots, tes belles phrases et tes magnifiques sentences. Tu ne m'aurais pas leurré de tes belles promesses. J'aurais eu de bons moments qui ne reviendront plus. C'est fini. Tu me disais, dompte tes passions. Eh bien, je les ai domptées. Me voilà bien avancé. On va me pendre, et toi, plus tard, on t'appellera âme sublime, âme stoïque, martyr des erreurs de la justice. Il ne sera même pas question de moi. » Telles étaient les tristes réflexions de mon pauvre corps. Le jour vint, d'abord pâle, indécis, il éclaira de ses vagues lueurs l'œil de bœuf, les barreaux en croix, puis il s'étoila contre la muraille du fond. Dehors, la rue s'animait. Il y avait marché ce jour-là. C'était un vendredi. J'entendais passer les charretées de légumes et les bons campagnards chargés de leurs hôtes. Quelques cages à poules caquetaient en passant, et les marchandes de beurre causaient entre elles. La halle en face s'ouvrait, on arrangeait les bancs. Enfin, le grand jour se fit, et le vaste murmure de la foule qui grossit, des ménagères qui s'assemblent, le panier sous le bras, allant, venant, discutant et marchandant, m'annonça qu'il était 8 heures du matin. Avec la lumière, la confiance reprit un peu le dessus dans mon cœur. Quelques-unes de mes idées noires disparurent. J'éprouvais le désir de voir ce qui se passait dehors. D'autres prisonniers, avant moi, s'étaient élevés jusqu'à l'œil de bœuf. Ils avaient creusé des trous dans le mur pour monter plus facilement. J'y grimpai à mon tour, et quand, assis dans la baie ovale, les reins pliés, la tête courbée, je pus voir la foule, la vie, le mouvement, des larmes abondantes coulèrent sur mes joues. Je ne songeais plus au suicide, j'éprouvais un besoin de vivre, de respirer, vraiment extraordinaire. Ah, me disais-je, vivre, c'est être heureux. Qu'on me fasse traîner la brouette, qu'on m'attache un boulet à la jambe, qu'importe, pourvu que je vive. La vieille halle, le toit en forme d'éteignoir, posé sur de lourds piliers, offrait alors un coup d'œil superbe. Les vieilles femmes, assises en face de leurs paniers de légumes, de leurs cages à volailles, de leurs corbeilles d'œufs. Derrière elles, les juifs, marchands de défroques, à la face couleur de vieux buis. Les bouchers aux bras nus, hachant des viandes sur leur étal. Les campagnards, aux larges feutres plantés sur la nuque, calmes et graves, les mains appuyées derrière le dos sur leurs bâtons de houx et fumant tranquillement leurs pipes. Puis la cohue, le bruit de la foule, ses paroles glapissantes, criardes, graves, hautes, brèves, ses gestes expressifs, ses attitudes inattendues qui trahissent de loin la marche de la discussion et peignent si bien le caractère de l'individu. Bref, tout cela captivait mon esprit et, malgré ma triste position, je me sentais heureux d'être encore au monde. Et pendant que je regardais ainsi, un homme, un boucher passa, le dos incliné, portant un énorme quartier de bœuf sur les épaules. Il avait les bras nus, les coudes en l'air, la tête penchée en dessous. Sa chevelure flottante, comme celle du sycambre de Salvador, me cachait son visage, et pourtant au premier coup d'œil, je tressaillis. « C'est lui !» me dis-je. Tout mon sang reflua vers le cœur. Je descendis dans la prison, frémissant jusqu'au bout des ongles, sentant mes joues s'agiter, la pâleur s'étendre sur ma face, et balbutiant d'une voix étouffée, « C'est lui, il est là, là, et moi je vais mourir pour expier son crime. Oh Dieu, que faire? Que faire ?» Une idée subite, une inspiration du ciel me traversa l'esprit. Je portai la main à la poche de mon habit, ma boîte à fusain s'y trouvait. Alors, m'élançant vers la muraille, je me mis à tracer la scène du meurtre avec une verve inouïe. Plus d'incertitude, plus de tâtonnement, je connaissais l'homme, je le voyais, il posait devant moi. À 10 heures, le geôlier entra dans mon cachot. Son impassibilité de hibou fit place à l'admiration. « Est-ce possible ? » s'écria-t-il, debout sur le seuil. « Allez chercher mes juges, » lui dis-je, en poursuivant mon travail avec une exaltation croissante. Schlussel reprit. « Ils vous attendent dans la salle d'instruction. »« Je veux faire des révélations, » m'écriai-je, en mettant la dernière main au personnage mystérieux. Il vivait. Il était effrayant à voir. Sa figure, de face, en raccourci sur le mur, se détachait sur le fond blanc avec une vigueur prodigieuse. Le geôlier sortit. Quelques minutes après, les deux juges parurent. Ils restèrent stupéfaits. Moi, la main étendue et tremblant de tous les membres, je leur dis « Voici l'assassin ». Van Sprengdahl, après quelques instants de silence, me demanda « Son nom ?» Je l'ignore, mais il est en ce moment sous la halle. Il coupe de la viande dans le 3e étal à gauche, en entrant par la rue des Trabans. « Qu'en pensez-vous » dit-il en se penchant vers son collègue. « Qu'on cherche cet homme, » répondit l'autre d'un ton grave. Plusieurs gardiens restés dans le corridor obéirent à cet ordre. Les juges restèrent debout, regardant toujours l'esquisse. Moi, je m'affaissais sur la paille, la tête entre les genoux, comme anéanti. Bientôt, des pas retentirent au loin, sous les voûtes. Ceux qui n'ont pas attendu l'heure de la délivrance et compté les minutes, longues alors comme des siècles, ceux qui n'ont pas ressenti les émotions poignantes de l'attente, la terreur, l'espérance, le doute, ceux-là ne sauraient concevoir les frémissements intérieurs que j'éprouvais dans ce moment. J'aurais distingué les pas du meurtrier marchant au milieu de ses gardes entre mille autres. Il s'approchait. Les juges eux-mêmes paraissaient émus. Moi, j'avais relevé la tête et, le cœur serré comme dans une main de fer, j'attachais un regard fixe sur la porte close. Elle s'ouvrit. L'homme entra. Ses joues étaient gonflées de sang. Ses larges mâchoires contractées faisaient saillir leurs muscles jusque vers les oreilles et ses petits yeux, inquiets et fauves comme ceux du loup, scintillaient sous d'épais sourcils d'un jaune roussâtre. Van Sprengdahl lui montra silencieusement l'esquisse. Alors, cet homme sanguin, aux larges épaules, ayant regardé, pâlit. Puis, poussant un rugissement qui nous glaça tous de terreur, il écarta ses bras énormes et fit un bond en arrière pour renverser les gardes. Il y eut une lutte effrayante dans le corridor. On n'entendait que la respiration haletante du boucher, des imprécations sourdes, des paroles brèves et les pieds des gardes soulevés de terre retombant sur les dalles. Cela dura bien une minute. Enfin, l'assassin rentra, la tête basse, l'œil sanglant, les mains garrottées sur le dos. Il fixa de nouveau le tableau du meurtre, parut réfléchir, et, d'une voix basse, comme se parlant à lui-même, « Qui donc a pu me voir ?» dit-il. « À minuit. » J'étais sauvé. Bien des années se sont écoulées depuis cette terrible aventure. Grâce à Dieu, je ne fais plus de silhouettes, ni même de portraits de bourgmestre. À force de travail et de persévérance, j'ai conquis ma place au soleil, et je gagne honorablement ma vie en faisant des œuvres d'art, le seul but, suivant moi, auquel tout véritable artiste doit s'efforcer d'atteindre. Mais le souvenir de l'esquisse nocturne m'est toujours resté dans l'esprit. Parfois, au beau milieu du travail, ma pensée s'y reporte. Alors je dépose la palette et je rêve durant des heures entières. Comment un crime accompli par un homme que je ne connaissais pas, dans une maison que je n'avais jamais vue, a-t-il pu se reproduire sous mon crayon jusque dans ses moindres détails? Est-ce un hasard? Non. Et d'ailleurs, le hasard, qu'est-ce, après tout, sinon l'effet d'une cause qui nous échappe? Schiller aurait-il raison lorsqu'il dit « L'âme immortelle ne participe point aux défaillances de la matière. Pendant le sommeil du corps, elle déploie ses ailes radieuses et s'en va Dieu sait où. Ce qu'elle fait alors, nul ne peut le dire, mais l'inspiration trahit parfois le secret de ses pérégrinations nocturnes. Qui sait, la nature est plus audacieuse en ses réalités que l'imagination de l'homme dans sa fantaisie. »